Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
On va discuter maintenant avec un ancien ministre des Finances qui est passé par finalement la présentation de plusieurs budgets. Bonjour, Carlos Letao.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va bien. Vous étiez donc ministre de Philippe Couillard de 2014 à 2018, ministre des Finances. Vous avez déposé quoi? 5 budgets, hein?
C'est 5 budgets, oui. Ça a commencé avec en 2014 et puis après ça, 4 à partir de là.
Donc, je sais que vous suivez toujours l'actualité des finances publiques du Québec. Vous en êtes un passionné. Vous avez été dans l'opposition à commenter les budgets et les affaires financières de l'État. Et avez-vous été surpris par l'ampleur du déficit du sixième budget Girard, donc 11 milliards dans le trou?
Oui, j'étais surpris parce que si on se réfère à il y a à peine 4 mois, la mise à jour du mois de novembre, le gouvernement nous parlait d'un déficit pour l'année fiscale 24-25, je pense aux alentours de 3 milliards, et puis là, tout d'un coup, c'est 11 milliards. C'est un très grand écart, là, hein. Seulement 4 mois que s'est-il passé pour passer de 3 à 11. Et puis même pour l'année qui est derrière nous, l'année 23-24, là, le déficit aussi a été plus élevé que ce qui avait été rapporté en novembre.
Et ça, c'est extrêmement... les chiffres consolidés, là, oui, nous indiquent ça, oui.
Et ça, c'est particulièrement préoccupant parce que rendu au mois de novembre, généralement, le ministère des Finances a une très bonne idée de qu'est-ce qu'on va présenter pour l'année en cours lors du budget qui est à peine 3 à 4 mois plus tard. Alors qu'on voit que même pour 23-24, il y avait quand même un écart important de 4, je pense que c'était de 4 à 8 milliards. C'est préoccupant, là. Que s'est-il passé, là, pour qu'on soit dans ces révisions-là en très peu de temps?
Il s'est passé les négociations dans le secteur public, probablement, pour ce qui est du budget du déficit de l'année qui s'en vient, le 11 milliards. Ouais. Mais c'est vrai que le déficit de l'année qui précède, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est le ralentissement, la stagnation de l'économie, probablement.
C'est ça, c'est les revenus. Donc, je vous avais dit tantôt 8 milliards, donc c'était 6,3 milliards qui a été rendu public pendant que le gouvernement attendait 4 milliards. Finalement, c'est 6,3. Et ça provient essentiellement des revenus, donc des revenus moins élevés pour l'année 23-24. Mais encore une fois, rendu au mois de novembre, on aurait dû savoir que les revenus allaient être considérablement plus bas que ce qui avait été anticipé avant.
Et les négociations dans le secteur public, trouvez-vous qu'on a été trop généreux à l'égard des employés de l'État? 7,4 d'augmentation. Oui.
Bon, ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir un jour, mais ce qui est étonnant, à mon avis, c'est que déjà au mois de novembre, il n'y avait pas vraiment de provision pour ça. Le gouvernement n'avait pas inclus, et il y a toutes sortes de façons dont un gouvernement, sans révéler de grandes choses, que le gouvernement aurait pu déjà inclure une certaine marge qui pourrait inclure des augmentations de la facture des salaires. Et non, il n'y avait rien, et donc tout d'un coup, pouf, c'est la surprise, la surprise. Surtout que quand on regarde pour l'année 24-25, vraiment c'est du côté des dépenses. Donc le changement du déficit provient surtout du côté des dépenses. Il y a un peu aussi, c'est vrai, des revenus des sociétés d'État, oui, mais la plupart d'ajustements va se faire du côté des dépenses.
Mm-hmm. Comment revenir à l'équilibre budgétaire? Vous l'avez fait, revenir à l'équilibre budgétaire. Vous avez regretté certaines décisions, vous l'avez dit, en éducation, on est allé trop vite, ça a créé des problèmes, donc vous avez exprimé un mea culpa.
En éducation, oui.
Oui, même en santé?
Non, en santé, je pense que je crois toujours qu'on avait fait la bonne chose. Okay. Mais en éducation, oui, en effet, on aurait dû faire ça différemment. Principalement parce que, et ça, je pense que le gouvernement actuel est aussi en train de le constater, le ministère lui-même a de la difficulté, le ministère d'éducation et enseignement supérieur, a de la difficulté à bien exécuter ses budgets. Mm-hmm. C'est peut-être une question institutionnelle, ministère, commission scolaire, bon maintenant centre de services scolaires, il y a toujours un décalage entre l'année fiscale et l'année civile. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau au ministère de l'Éducation à Québec, mais moi je m'attendais pas à ça et oui, ça a beaucoup de difficultés notre tâche. Et donc, si c'était à refaire, je pense qu'en éducation, on aurait dû y aller de façon plus systématique, plus lente peut-être, pour donner au ministère la chance d'attraper les commandes qui lui étaient envoyées. Mais de, le reste, je le... Non, ça, je m'en tiens. Mais pour revenir à votre question, je pense que oui, c'est nécessaire de revenir à l'équilibre budgétaire. Et oui, c'est plus facile de le faire plus tôt que tard. Ce qui me surprend, c'est que le gouvernement réalise qu'il y a un grand déficit, mais dit qu'il y a tellement d'incertitudes qu'il sera seulement l'année prochaine, en mars 2025, qu'il y aura un plan de retour. Ça me surprend énormément, parce que je pense que les grandes lignes de ce plan de retour auraient déjà dû être mises en œuvre maintenant. Pas qu'il commence tout de suite à faire des changements, mais les grandes lignes auraient dû être annoncées maintenant. Je pense que ça, c'est une occasion ratée.
Vous dites qu'en éducation, vous auriez fait les choses autrement. Probablement parce que, oui, plus lentement. Tu sais, vous avez parlé des gens qui n'ont pas été remplacés parce qu'il y a des gens qui partaient à la retraite. Donc, ça a créé le problème de pénurie de main-d'œuvre ou ça a accentué le problème de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'éducation, là, qu'on tente de corriger avec des meilleurs salaires et tout ça.
Ça certainement que ça a contribué parce que la pénurie était déjà là, je pense. Mm-hmm. Mais le très grand nombre de départs à la retraite en 2015-2016, ça nous a surpris et oui, ça a rendu les choses plus difficiles et c'est pour ça que je dis qu'on aurait dû aller un peu plus lentement parce que le ministère n'avait pas, et je pense qu'il n'a pas encore aujourd'hui, n'avait pas une idée claire du portrait.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de données, hein? Il manque des données, il n'y a pas de tableau de bord, comme le dirait Christian Dubé en éducation. Oui. Hein? Ça, c'est un problème.
Pour savoir exactement combien de personnes on va avoir besoin. Okay. Alors, puisqu'on n'avait pas ce portrait-là, et on avait quand même des commandes, disons, rigoureuses à envoyer au ministère, ça a été très difficile pour eux de suivre.
Dans l'entrevue,
mais le problème est toujours là, je pense. Ben oui. M. Drainville se bat toujours avec cette question d'avoir un véritable portrait de quelle est la situation au jour, surtout au début de l'année scolaire, combien de personnes nous manquent exactement. Je pense qu'encore au début de cette année scolaire, c'était encore un problème.
Donc, en 2015-2016, vous êtes revenu rapidement à l'équilibre budgétaire et c'était par crainte du courroux des agences de notation. Vous l'avez dit, là, il y a Moody's là, qui voulait vraiment décoter le Québec, avez-vous dit il y a un an dans l'entrevue que vous avez accordée à Gérald Filion de Radio-Canada. Donc, et là, on voyait ce matin que les mêmes agences de notation regarde le Québec et sourcille, ils ont vraiment pas aimé. Donc, d'abord, est-ce qu'il faut craindre plutôt une décote du Québec? Et deuxièmement, pour les satisfaire, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse de la rigueur budgétaire extrême, voire de l'austérité? J'ai employé le mot en A, Carlos Letao.
Mais ça va, ça ne me dérange plus. regardez. La première, c'est que et dans le discours de récent de budget après budget, on a vu le premier ministre, le ministre des Finances, essayer de minimiser un peu les choses. Je crois que ce qu'on doit tenir en considération, c'est qu'au Québec, nous avons un niveau d'endettement public qui est encore très élevé. Mmh. Oui, il y a eu du progrès. Oui, le ratio de dette ont diminué. Je pense qu'on a bien fait les choses à cet égard-là. Mais on est encore, en termes de dette publique, au Québec, on est la deuxième province.
Ah oui.
C'est seulement Terre-Neuve qui a une dette plus élevée que la nôtre. Et par la suite, c'est le Québec. Maintenant, même l'Ontario a une dette qui est un peu moins élevée que la nôtre en termes de proportion du PIB. Donc, on a une dette qui est le fruit des décisions passées, de tous les gouvernements passés. Donc, la dette, elle est très élevée. Donc, il faut toujours faire attention. Mmh. Maintenant, pour ce qui est d'une décote, en 2014, on était vraiment à la limite de ce qui était la qualité de crédit, qualité investment grade. Mmh. Et donc, ça aurait été extrêmement complexe si à ce moment-là, on avait été décoté. C'est pour ça qu'on s'est battu, on a discuté, on a eu de longues réunions avec ces personnes-là pour essayer de que la cote soit maintenue. Parce que si on avait été décoté à ce moment-là, ça nous aurait mis dans une situation extrêmement délicate. Maintenant, on n'est plus là. Le Québec a été, la cote a été améliorée. Donc, si jamais il y avait une décote aujourd'hui, regardez, l'Ontario a été décoté, le ciel ne l'aura pas tombé sur la tête. Parce qu'ils sont toujours à l'intérieur d'une cote de qualité investissement. Donc, de ce côté-là, ça va.
La cote du Québec est meilleure que celle de l'Ontario encore. Hein?
Oui. Oui. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, mais oui. Mm-hmm. Donc, on a vraiment une bonne marge de manœuvre. Mm. Je ne pense pas vraiment que les agences de notation vont. Je ne pense pas qu'une décote soit imminente. Je ne pense pas ça du tout. Ce qui dérange les agences de notation, et ce qui me dérange aussi à moi un peu, et à beaucoup d'autres observateurs, c'est que le gouvernement n'a pas jugé utile de publier en même temps dans son budget un plan de retour à l'équilibre budgétaire.
Ouais,
c'est clair
ouais.
qu'on va pas éliminer le déficit demain matin, ça n'arrivera pas et c'est pas nécessaire de faire ça non plus. Mais il faut avoir sur un horizon de 5 ans, il faut avoir un plan de retour à l'équilibre. Là, ouais. on n'est pas dans un horizon de 5 ans et on n'a pas de plan de retour à l'équilibre. Mm-hmm. Je pense que c'est surtout ça qui rend les agences de notation un peu plus nerveuses. Ils vont aller, comme c'est le cas chaque année, ils vont aller au ministère des Finances. Il y aura des conversations beaucoup plus détaillées entre le ministre et les fonctionnaires de l'agence de notation. Par la suite, ils vont produire leur rapport, les agences. Donc on verra là, on n'est pas à la veille d'une décote, mais la question ici c'est que dans les marchés financiers, juste le fait que les agences ont indiqué un certain inconfort avec le portrait financier du Québec, juste ça, c'est suffisant pour faire, comme on dit dans le jargon, élargir les spreads de crédit. Donc c'est-à-dire, ça nous coûte maintenant un peu plus cher.
Ça nous coûte plus cher.
Que la ouais. semaine dernière. Un peu, ouais. là, il faut pas exagérer, mais ça nous coûte un peu plus cher que la semaine dernière. Mmh. Et c'est ça le risque. Même sans avoir une décote, le service à l'aide peut augmenter un peu. Donc, c'est pour ça que c'est très important et très nécessaire d'avoir ce plan. Mmh. Ce plan et qu'il soit crédible. Hein, une trajectoire de retour à l'équilibre, c'est important.
En terminant, je voudrais aborder le thème de l'immigration.
Oui.
Vous avez dans le passé critiquer assez durement la coalition Avenir Québec. Vous avez
oui.
dit qu'ils étaient animés d'un nationalisme basé sur l'ethnicité. Et en même temps, vous avez été dans les grandes banques mm-hmm. ici au Canada, notamment la Banque Laurentienne. Et là, je vois toutes les grandes banques changer de discours complètement sur mm-hmm. l'immigration. La dernière en date, c'est la Banque Royale qui a publié une étude cette semaine où elle dit « c'est catastrophique l'immigration massive pour le logement, ça aide pas la démographie, tout ça ». Je me demandais comment vous, face à ce changement de discours des grandes banques, on pense aussi au piège démographique qui a été dénoncé par la Banque nationale. Donc, qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez ça? Est-ce que vous considérez que les banques sont en train d'adopter une sorte de nationalisme ethnique ou est-ce que vous
non,
croyez que
tout.
C'est nécessaire?
Non, pas du tout. Et une chose, je regrette le terme que j'ai utilisé
ah oui?
2017, 2018,
ouais,
quand
2018.
J'ai parlé de ça. C'est pas le terme que j'aurais voulu utiliser. C'est okay. plutôt le nationalisme identitaire. C'est ça ce que je voulais dire. Et en effet, ce terme-là que j'ai utilisé n'était pas approprié.
Je comprends.
Je me suis excusé. Maintenant, si on revient à la question, et c'est très intéressant que vous la posiez dans ces termes-là, parce qu'en effet, il y a eu un énorme changement de 2018, quand on parlait de ces choses-là, chemin Roxham, etc., et puis 2024. Il y a un changement majeur qui s'est opéré au Canada. Et là, je trouve qu'on doit faire très attention, parce que regardez, quand on regarde les chiffres objectivement, en 2022, c'est 1 million de personnes qui sont arrivées au Canada.
Ouais.
1 million de personnes.
Ouais.
Et en 2023, quand on aura les chiffres aussi, les chiffres finaux, ça va être aussi 1 million, peut-être même un peu plus. Donc, en 2 ans, là, on a 2 millions de personnes qui sont arrivées au Canada.
Mm-hmm.
On n'est pas dans les mêmes hors de grandeur qu'on était en 2016, 17, 18. Là. C'est ça. Le portrait a complètement changé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on regarde la composition de ces 2 millions de personnes qui sont arrivées au Canada en seulement 2 ans, on voit qu'un très grand nombre de ces personnes-là ont un statut temporaire. Et ça, je trouve extrêmement malheureux, et j'avais déjà mentionné ça quand j'étais encore à l'Assemblée nationale.
Ouais.
J'avais mentionné au Premier ministre et au gouvernement que comment voulez-vous qu'une personne s'intègre à la société québécoise si vous lui donnez un permis de 3 ans. Mm. Et qu'après 3 ans, il doit rentrer chez lui. Alors comment vous voulez qu'il fasse un effort pour s'intégrer? Donc je pense que de miser sur l'immigration temporaire, c'est une erreur.
Mm-hmm.
Au Canada, c'était pas ça l'immigration. C'est l'immigration permanente, avec un système quand même relativement efficace, à mon avis, dans
ouais.
le temps, où on choisissait les personnes, il y avait une grille de sélection, il y avait des points qui ont été attribués. On pourrait augmenter les seuils, on pourrait avoir de longues discussions là-dessus, mais le processus était un processus robuste. Là, il me semble qu'on est ailleurs, là, avec une immigration temporaire, avec très peu de critères et vraiment des données, des nombres qui sont hors proportion. Une population de 40 millions, vous avez 2 millions.
Mais une immigration qui permet d'éviter des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Donc
peut-être, mais
c'est tout un dilemme là pour surtout une partie de pays comme le Québec, une nation qui a une démographie très vieillissante.
Oui, c'est vrai, nous avons un problème démographique majeur. Et qui dans les années à venir ne va pas s'améliorer. Ça c'est la projection la plus facile à faire, c'est une projection démographique. Mais encore une fois, la façon de répondre à ces enjeux-là, à mon avis, ce n'est pas par l'immigration temporaire, mais par une immigration structurée permanente.
Mm-hmm.
Et si on met trop d'emphase sur une immigration temporaire, on va aller chercher beaucoup de travailleurs non qualifiés. Et donc, d'une certaine façon, on va mettre un peu de pression à la baisse sur les salaires, et les entreprises vont avoir moins d'incitatifs à investir dans la modernisation, donc à améliorer la productivité.
Ouais,
parce que une chose qui se passe aujourd'hui,
c'est un problème du Canada. Malheureusement, il faut qu'on se laisse là-dessus, Carlos Letan. C'était vraiment un plaisir de vous parler comme d'habitude. Puis, je rappelle que vous avez été, entre autres, banquier et ministre, évidemment, des Finances de Philippe Couillard. Alors, merci encore, puis au plaisir.
Merci à vous. À bientôt.